Et à 18h, c'est l'heure du journal présenté par Antoine Marette. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Wikileaks. Julian Assange a été arrêté ce matin à l'ambassade d'Équateur à Londres où il était réfugié depuis 7 ans. Les États-Unis demandent son extradition. La fin d'un règne sans partage de 30 ans pour Omar el-Béchir. Celui qui dirigeait le Soudan depuis 30 ans a été destitué par l'armée. C'est désormais un conseil militaire de transition qui est à la tête du pays. Dans ce journal, nous évoquerons la propagande de Pékin au sujet du Tibet, 60 ans après la fuite du Dalaï Lama. Et puis dans l'actualité française, nous évoquerons cette nouvelle journée de mobilisation dans les écoles parisiennes contre la loi Blanquer. Elle prévoit notamment une réforme du baccalauréat, la scolarisation obligatoire dès 3 ans et le regroupement entre les écoles primaires et le collège. Julian Assange a donc été arrêté aujourd'hui à Londres, à l'ambassade d'Équateur. Le fondateur de Wikileaks y était réfugié depuis 7 ans. Il bénéficiait du statut de réfugié, mais l'Équateur a donc mis fin à cette protection, invitant la police britannique dans son ambassade. Bonjour, bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir Antoine et bonsoir à tous.
Cette affaire Julian Assange connaît donc un nouveau rebondissement, un de plus, car elle est très complexe. Le fondateur de Wikileaks se définit comme lanceur d'alerte. Washington le considère comme responsable d'un complot en vue de pirater un ordinateur du gouvernement américain.
Oui, un site du ministère de la Défense dont il aurait décrypté le mot de passe transmis à Chelsea Manning, ex-analyste militaire, qui a ainsi extrait 700 000 documents confidentiels transmis à Wikileaks, des câbles diplomatiques classés secrets, publiés en 2010 simultanément par le New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País et Le Monde. La notoriété de Wikileaks prend alors de l'altitude et celle de la Maison Blanche ternie. Le journaliste et cybermilitant australien est considéré, vous l'avez dit, comme un lanceur d'alerte de génie par les uns, comme un manipulateur inhumain et paranoïaque par ses détracteurs. L'informaticien de formation est depuis toujours en lutte, dit-il, contre l'asymétrie d'information entre les autorités publiques et les citoyens. Il sera accusé de délit sexuel par 2 femmes suédoises, accusation qui est survenue peu de temps après que Wikileaks a publié 77 000 documents confidentiels de l'armée américaine sur la guerre en Afghanistan. Lors d'autres livraisons, il sera question de bavures de l'armée américaine en Irak, des circuits de corruption des dictateurs africains, de certaines compagnies russes offshore et des pratiques douteuses du Parti démocrate américain en pleine présidentielle de 2016, ce qui vaudra à Julian Assange d'être accusé d'être à la solde de la Russie de Vladimir Poutine. Son arrestation justifiée dans un premier temps par, je cite, des violations répétées aux règles régissant ses conditions d'asile selon Scotland Yard, a très vite été motivée par une demande d'extradition américaine. Arrestation condamnée ce soir par l'ONU et Reporters sans frontières. Enfin, Edward Snowden, ex-employé de la NSA, lui à l'origine de révélations sur des programmes de surveillance de masse. Edward Snowden, réfugié à Moscou, avait bénéficié du soutien de Julian Assange et il déclare ce soir, c'est un jour sombre pour la liberté de la presse.
Merci Mathieu Laurent. La justice américaine a donc annoncé avoir inculpé Julian Assange. Il risque 5 ans de prison. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Antoine.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Washington qui a demandé l'extradition de Julian Assange.
Oui, et cette demande que j'ai sous les yeux fait 7 pages, elle est datée du 6 mars dernier. Dans ce document, il est donc écrit que Julian Assange est inculpé pour conspiration et piratage informatique. Alors de quelle affaire s'agit-il? Mathieu Laurent le rappelait à l'instant, cette fuite en 2010 et 2011 de centaines de milliers de documents militaires relatifs à l'engagement des États-Unis en Irak et en Afghanistan. La fuite avait été rendue possible, souvenez-vous, par Chelsea Manning, l'ex-analyste du renseignement américain qui se trouve toujours en détention ici à Washington. Et c'est donc pour cette affaire-là que Julian Assange risque aujourd'hui d'être extradé vers les États-Unis. Attention, on ne parle pas là des révélations de 2016 et des milliers d'emails du Parti démocrate publiés pendant la campagne présidentielle américaine. Ça, c'est une autre affaire. Mais avec cette inculpation, effectivement, Assange risque jusqu'à 5 ans de prison aux États-Unis. Il ne va pas être extradé tout de suite, puisqu'une nouvelle audience est prévue à Londres début mai, le 2 mai, je crois, et que ses avocats annoncent ce soir qu'ils vont évidemment contester cette décision.
Et Grégory, on assiste à un changement de ton des États-Unis vis-à-vis de Julian Assange.
Oui, souvenez-vous, en 2016, pendant la campagne présidentielle, Wikileaks avait donc publié ces centaines de milliers de courriers électroniques du Parti démocrate et du directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, avec l'aide sans doute de Moscou. Et écoutez ce que disait Donald Trump à l'époque.
Now, this just came out. This just came out. Wikileaks, I love Wikileaks.
Voilà, ça vient juste d'être publié. J'adore Wikileaks, mais quelques mois plus tard, Mike Pompeo, qui était encore directeur de la CIA, décrivait le site comme un service d'espionnage non gouvernemental et hostile et une menace pour la sécurité des États-Unis. Changement de ton, donc, qui débouche aujourd'hui sur cette demande d'extradition. Au moment où on se parle, ni Donald Trump, ni la Maison-Blanche n'ont fait de commentaires après l'arrestation de Julian Assange.
Merci à vous, Grégory Phillips. L'autre information importante de cette journée, c'est le renversement d'Omar el-Béchir après 30 années d'un règne sans partage à la tête du Soudan. Après 4 mois de contestation populaire, l'armée a fini par destituer le chef de l'État soudanais. C'est désormais un conseil militaire de transition qui est à la tête du pays. Les meneurs du mouvement de contestation dénoncent un coup d'État militaire. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
L'Alliance pour la liberté et le changement appelle à continuer les rassemblements dans tout le pays.
Oui, et ça a été une journée particulièrement compliquée aujourd'hui au Soudan, avec cette attente si longue, cette annonce de l'armée qu'on disait imminente depuis l'aube. Et puis en début d'après-midi, enfin l'apparition à la télévision du ministre de la Défense, Awad Ben Aouf, le ministre de la Défense qui est donc annoncer la chute d'Omar el-Béchir, son arrestation, la mise en place d'un conseil militaire de transition pour une période de 2 ans. L'espace aérien a été fermé pour 24 heures, toutes les frontières terrestres du pays également. Et la foule, eh bien, la foule, elle est à la fois satisfaite, puisqu'elle réclamait depuis 6 jours maintenant que l'armée prenne la tête d'un système de transition. L'armée qui a donc très habilement créé les conditions pour apparaître ce soir comme la gardienne des aspirations du peuple, la sauveuse de la nation. Un jeu stratégique où elle a pris en fait le contre-pied de ses rivaux, les puissants services de renseignement que Omar el-Béchir avait largement favorisé ces derniers temps. Ces mourabarats, ce sont eux qui ont réprimé violemment la foule justement qui manifestait depuis 3 mois. Et alors, en prenant la main ce soir, l'armée sonne la fin de ces manifestations. Elle dit un peu, on rentre à la maison maintenant, on comprend avec toutes les restrictions qu'elle veut que la foule rentre chez elle. Et donc, la foule est divisée. Elle craint que ce coup d'État soit en fait un coup d'État conservateur qui permette au système de continuer à exister en changeant seulement de tête.
Merci à vous, Claude Guibal. Vous le savez, l'Union européenne a autorisé la Grande-Bretagne à différer sa sortie une fois de plus. Londres aura jusqu'au 31 octobre pour ratifier l'accord de rupture négocié par Theresa May, mais déjà rejeté par 3 fois par la Chambre des communes. Et c'est justement devant cette Chambre des communes que la Première ministre est venue en début d'après-midi présenter les termes de ce qu'elle a obtenu hier soir à Bruxelles, Éric Bigala.
Une nouvelle extension de la période et donc l'assurance que le pays ne sortirait pas de l'Union sans accord, c'est ce qu'a présenté Theresa May à Westminster tout à l'heure. Avec à la clé la probable organisation, paradoxale, d'élections européennes en Grande-Bretagne, puisque le pays fera toujours en droit partie de l'Union le 23 mai prochain. Pour autant, a prévenu Theresa May, il ne tient qu'à la Chambre des communes d'accélérer les choses.
Comme je l'avais demandé, le Conseil européen a accepté que l'on puisse mettre un terme à cette extension aussitôt que l'accord de sortie serait ratifié. Si on arrive à le faire passer avant le 22 mai, on n'aura pas à participer aux élections européennes et si l'Union européenne le ratifie également, nous serons sortis de l'Europe à 23h le 31 mai. En résumé, la date de notre départ de l'Union européenne et notre participation aux élections européennes seront décidées par cette chambre.
Manière de mettre l'Assemblée devant ses responsabilités, la Première ministre a également suggéré que l'accord de retrait de l'Union pourrait être une 4e fois soumis au vote des parlementaires après les vacances de Pâques qui commencent demain. Entre-temps, conservateurs et travaillistes poursuivent leurs négociations pour trouver une formule de compromis qui permettrait justement d'obtenir une majorité aux communes sur cet accord de retrait.
Le Dalaï Lama va mieux. Hospitalisé mardi à New Delhi en Inde pour des douleurs thoraciques, le chef spirituel tibétain qui est âgé de 84 ans devrait sortir de l'hôpital demain. L'information sur sa santé n'a pas été commentée en Chine, où le Dalaï Lama est toujours considéré comme la bête noire du régime. Pékin vante le succès de sa politique au Tibet depuis la fuite du Dalaï Lama il y a 60 ans. C'était précisément le 17 mars 1959. À l'occasion de cet anniversaire, le gouvernement chinois a lancé une opération de propagande pour défendre ce qu'il appelle la réforme démocratique au Tibet. Reportage de notre correspondante Dominique André.
À 2 pas du siège du pouvoir, des experts exposent devant des journalistes et diplomates étrangers les vertus de la politique économique du Parti communiste au Tibet. Ils s'appuient sur de nombreux graphiques pour prouver qu'en 60 ans, c'est-à-dire depuis la chute du régime théocratique du Dalaï Lama, le Tibet s'est modernisé, sortant de la grande pauvreté et d'un système féodal, insiste Jia Luo de l'Institut des études économiques et sociales.
C'était un régime qui exploitait la population comme des esclaves agricoles, comme des serfs. Ils n'étaient pas propriétaires de leurs terres et ne possédaient aucune richesse. En 1959, les terres ont été rendues aux paysans ainsi que le bétail. Nous avons apporté beaucoup de technologies avancées. L'économie du Tibet s'est développée rapidement.
Comme son collègue, le professeur Wang Xiaobin explique qu'il est venu pour partager ses recherches sur la réalité au Tibet. Les autorités chinoises insistent sur la hausse de l'espérance de vie, des revenus, d'un meilleur accès aux soins et à l'éducation. Maintenir le cap, c'est la priorité du régime, explique M. Wang.
Nous avons deux objectifs dans notre politique. L'un est de construire la société d'aisance totale pour tous. L'autre, c'est de garantir la stabilité de la société tibétaine. C'est une priorité. Il faut éviter les rassemblements ainsi que les manifestations. Cela fait partie des tâches du gouvernement local. Ce type d'événement aurait de graves conséquences sur la vie de la population et sur l'économie et pourrait ternir l'image de la Chine. On concentre nos efforts sur deux objectifs, enrichir le peuple tibétain et résoudre le problème du Dalai Lama.
Mais à Pékin, l'écrivaine tibétaine Tsering Wesse lutte pour défendre sa culture, victime de la répression qui ne diminue pas.
Je suis toujours en état de surveillance. Par exemple, quand je suis retournée à Lhasa l'an dernier, pendant 6 mois, j'ai été surveillée quotidiennement, même toutes les minutes. De toute façon, il n'y a pas du tout de liberté. Ma maison est à Lhasa. Lhasa, c'est chez moi, où vivent ma mère et toute ma famille. Là-bas, dès que je sors, il y a quelqu'un qui me suit. Mes livres et mes articles sont interdits de publication en Chine. Pareil pour Internet en Chine. Mes livres sortent donc dans des librairies de Taïwan. Je n'ai pas de passeport. Impossible d'en avoir un. Même si je fais la demande, ils ne me le donneront pas. C'est comme ça depuis des années. Voilà ma vie avec une liberté très très limitée.
Le Tibet reste un territoire fermé où la presse ne peut pas travailler librement et les touristes sont encadrés. Le pari de Pékin est de voir la cause tibétaine s'essouffler, ce qui est le cas. Le Dalai Lama n'a pas rencontré de dirigeants étrangers depuis 2016. Peu à peu, les chefs d'État n'osent plus s'afficher avec le chef spirituel tibétain par peur de représailles commerciales de la part de Pékin.
Dossier signé Dominique André. 18h passées de 12 minutes sur France Culture, bientôt 5 ans, Oleg Sentsov est prisonnier politique en Russie. Après s'être opposé à l'annexion de la Crimée, il avait été arrêté par le pouvoir russe pour terrorisme en 2014. Entre mai et octobre 2018, il s'était mis en grève de la faim pour demander la libération de ses compatriotes détenus en Russie. Il avait ensuite reçu du Parlement européen le prix Sakharov pour la liberté d'expression. Pour maintenir la pression médiatique sur le pouvoir russe, Théo Conscience, des étudiants ukrainiens organisait ce matin un tournage symbolique place de la République à Paris.
À 9h ce matin, le plateau de tournage est fin prêt. Les acteurs sont maquillés, les lumières calibrées, les caméras et les micros sont en place. Seule la chaise du réalisateur reste vide. C'est pour cela que son premier assistant, Evan, mégaphone allumé à la main, ne dit pas « action ».
On n'a pas dit « action » parce que c'est le rôle du réalisateur. Mais dans notre performance, nous n'avons pas de réalisateur car il est en prison.
Ce réalisateur absent, c'est Oleg Sentsov. Comme Evan, une quarantaine de jeunes de 16 à 18 ans sont venus d'Ukraine avec tout le matériel de tournage pour dénoncer son incarcération et celle de leurs 94 compatriotes détenus en Russie. Anna Garmash est la présidente de l'association Ukraine Action.
Le plateau de tournage vise à imiter le tournage d'un film que Oleg Sentsov lui-même tournait à distance. Puisque depuis la prison, il donne des indications à notre réalisateur pour finir ce film. On essaye d'imiter cela pour ensuite montrer que s'il n'y a pas le réalisateur, un film ne peut pas vraiment se faire.
Rendez-nous notre réalisateur, dit ce jeune Ukrainien. Il demande à la France et à l'Union européenne de faire pression sur la Russie. Le sort du cinéaste mobilise la jeunesse ukrainienne, selon l'organisatrice de cet événement, Marta Setriak.
Les jeunes sont informés sur ce sujet et c'est important pour eux car c'est un réalisateur et donc ça touche à la culture. Sa situation influence la politique ukrainienne, mais également notre identité culturelle.
Des rassemblements similaires ont eu lieu à Berlin, Prague et Bratislava aujourd'hui et un autre est prévu à Bruxelles demain. Avec partout le même mot d'ordre, rendez-nous notre réalisateur.
Reportage signé Théo Conscience et le film Oleg Sentsov a réalisé depuis sa prison est une adaptation de sa pièce Numbers, une fiction utopique et sombre dans laquelle les noms des personnes sont remplacés par des numéros. Il a échangé des lettres avec sa productrice pendant plusieurs semaines et il a, selon elle, été inclus dans toutes les décisions du film. La troisième victoire d'un agriculteur contre Monsanto, Paul-François a fait condamner une nouvelle fois la firme américaine pour l'avoir intoxiqué avec un désherbant désormais interdit. La cour d'appel de Lyon a condamné Monsanto à verser 50 000 euros de frais d'avocat aux plaignants. Et c'est l'occasion d'évoquer un souhait du gouvernement, réduire l'usage des pesticides de 25% d'ici l'année prochaine, cela paraît ambitieux. Les précédents plans de lutte contre les pesticides et herbicides dits éco-phyto n'ont pas empêché que la consommation de ces pesticides par les agriculteurs ne cesse d'augmenter, plus 12% en 7 ans. Hier, le ministère de l'Agriculture a annoncé une nouvelle restructuration du plan éco-phyto mis en place en 2015. Ce plan dit éco-phyto 2+, a notamment officialisé la nomination d'un préfet délégué à la réduction des pesticides en région. Il s'appelle Pierre-Étienne Biche. Il sera chargé de coordonner avec les préfets de région notamment les mesures et le suivi de ce qui a été mis en place dans ce plan Anne-Lorchouin.
Un homme plein de bonne volonté, c'est ce qu'en disent pour l'instant les associations de protection de l'environnement qui dénoncent par ailleurs dans ce plan Ecophyto 2+, des mesures très sporadiques qui rendent assez improbables les objectifs pourtant ambitieux du gouvernement. La France reste en effet le premier utilisateur de produits phyto en Europe, même si ça n'est pas elle qui en consomme le plus à l'hectare. Pour atteindre la réduction de moitié de l'utilisation des insecticides et pesticides d'ici 2050, Pierre-Étienne Biche devra mener son action au plus près des territoires. Il sera à la tête d'un groupe d'action chargé, en lien avec les préfets de région, d'accompagner, filière par filière, voire ferme par ferme, les agriculteurs vers les bonnes pratiques. À son arsenal, deux mesures proposées par les associations de lutte contre les pesticides, notamment la séparation de la vente et du conseil en pesticides. Claudine Joly est chargée de l'agriculture à France Nature Environnement.
Nous, on a toujours porté cet accompagnement par des conseillers complètement indépendants de la vente. Après, il faut que ça se structure sur le terrain et pour le moment, ça, c'est pas encore très clair. Et si on veut faire bouger l'agriculture, il faut absolument aller chercher tous les agriculteurs.
L'autre mesure agace déjà la FNSEA qui s'est fendue d'un communiqué. Aujourd'hui, l'augmentation de la taxe sur les pesticides, dite redevance pour pollution diffuse. Selon le syndicat, cela ne fera qu'augmenter les charges dont souffrent déjà les agriculteurs.
Nouvelle journée de mobilisation dans les écoles parisiennes contre la loi Blanquer. Elle prévoit notamment une réforme du baccalauréat, mais aussi la scolarisation obligatoire des 3 ans ou encore le regroupement entre les écoles primaires et le collège. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Antoine Maret.
Vous étiez ce matin à l'école Olivier Métra dans le 20e arrondissement de Paris. Le mouvement a été très suivi. Vous l'avez constaté vous-même ce matin, seuls 24% des élèves étaient présents.
Dans cette classe de CP et dédoublée, la majorité des élèves étant restés chez eux, leur professeur Marion profite pour faire des révisions. Mais elle n'en demeure pas moins très inquiète par la loi Blanquer, qui risque selon elle d'augmenter les effectifs dans son établissement classé en zone d'éducation prioritaire. Alors pour elle, la mobilisation des parents est donc un soutien de taille.
Les problèmes qu'il peut y avoir de comportement sont encouragés par les sureffectifs dans les classes. Et qu'effectivement, se retrouver avec des classes de cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, en double niveau à plus de 25, qui est censé être la limite normalement en éducation prioritaire, ça vient mettre en péril tout le travail qui a déjà été fait.
Une baisse des moyens qui est venue dénoncer Eva, maman dont la fille est en CP. Avec d'autres parents, ils occupaient symboliquement ce matin le bureau du directeur de l'école.
Je suis italienne, je suis venue en France parce que la France, j'ai jugé qu'au niveau de droit, des secteurs publics, était fabuleux. C'est-à-dire il y avait une vraie tutelle de travailleurs, etc. Et je vois que petit à petit, en fait, cette situation, ça se dégrade. Et donc, ça m'interroge. Et voilà, je voudrais retrouver une situation qui soit correcte pour tous les travailleurs et une égalité sociale, quoi, qui est en train de se perdre.
Parents et enseignants doivent encore continuer la mobilisation ce week-end en organisant à travers le pays des pique-niques géants dimanche.
Merci à vous Hakim Kasmi. Demain, le soleil va dominer sur la majeure partie du pays, à l'exception de la Corse qui connaîtra quelques averses. Température plutôt fraîche dans l'après-midi, 10 à Cherbourg, seulement 13 à Paris, 17 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Stanislas Vazak, à qui on souhaite une très bonne fête. We'll be right back.